إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour commencer, donc, je remercie mes frères et sœurs de Zakat France de m'avoir invité pour parler de ce sujet très très important qui nécessite de notre part une bonne compréhension. Et je remercie aussi beaucoup la mosquée de Dessine qui m'invite aussi pour cette occasion. Jazakumullahu khair. Donc pour aller vite, Inch'Allah, je vais vous donner vraiment l'essentiel sur cette éthique, l'importance, la vision musulmane de l'argent. Et quand je parle de l'argent, je parle de la richesse matérielle d'une manière générale. Je vais peut-être dire l'argent, mais l'argent, c'est pas vraiment uniquement, c'est la richesse matérielle d'une manière générale. Que ça soit l'argent, que ça soit l'or, que ça soit les bétails, que ça soit les maisons ou les habitats, ou tout type de biens matériels qu'Allah nous a octroyés, ça fait partie de cette richesse. Et ça rentre dans le cadre de ce que je vais dire, Inch'Allah. Donc la conférence ou le rappel concerne l'argent et l'éthique musulmane. Pour commencer, il faut dire que l'éthique musulmane, al-khuluq al-islami, il embrasse toute chose. Nous avons une morale, une éthique qui ne se dissocie jamais d'aucun domaine de la vie. Le musulman a une éthique, une morale qui s'applique à tout. À sa relation avec ses enfants, relation avec sa femme, relation avec l'entourage, les musulmans, les non-musulmans. C'est dans le domaine économique, il y a une éthique musulmane à respecter, une morale musulmane à respecter. Dans le domaine politique, il y a une morale musulmane à respecter, même en guerre. Quand on fait la guerre, normalement, on va dire, la guerre c'est la guerre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous impose une éthique. Le musulman ne fait pas n'importe quoi. Même en période de guerre, il a des principes à respecter. Tout le temps, le musulman vit avec ses principes. Il doit toujours les respecter. Et ces principes embrassent toutes choses. Donc nous avons une morale. Une morale qui n'est pas exceptionnelle. On ne va pas dire, à un certain moment, c'est bon, on laisse la morale de côté. La morale, elle est toujours là. On vit avec notre morale. Même en guerre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait ses compagnons pour la guerre, il leur dit, attention, vous allez trouver sur votre chemin des gens, des moines qui se sont isolés de la société pour adorer Dieu, laissez-les tranquilles, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de femmes, vous ne combattrez que ceux qui vous combattent. Des règles que le prophète donnait à tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces règles-là s'appliquent aussi dans le domaine financier. Il ne faut pas, parce que certains vont nous dire, le monde des affaires, les affaires c'est les affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Du moment où j'ai la possibilité de profiter, de gagner de l'argent, n'importe quelle manière, ben les affaires, c'est des affaires. J'oublie même mes parents, j'oublie même mes principes. Quand il s'agit de gagner de l'argent, je ne calcule personne. Business is business. Ce n'est pas comme ça que les musulmans voient les choses. Les affaires, oui, quand c'est dans le cadre halal. Les affaires, non, quand c'est dans le cadre de al-haram. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment le peuple de Shu'aib, ce peuple-là, qui était un peuple qui fraudait énormément, hein, al-mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement, awful kayl, donner aux gens la pleine mesure. Donc ce peuple-là avait ce défaut majeur qui est de frauder. C'était des fraudeurs. Et Allah a envoyé Shu'aib, et Shu'aib parlait aux gens, leur disait, mais pour gagner de l'argent, il faut gagner d'une manière licite, vous ne faites pas n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et quelle était la réponse de son peuple ? قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Subhanallah. Regardez comment ce peuple a compris que la salat, hein, normalement, il croyait que la salat, hein, la prière, toute la partie spirituelle, c'est la partie spirituelle, ça n'a rien à voir avec l'économie, ça n'a rien à voir avec l'argent. Comment ça se fait que ta prière t'ordonne de l'autre côté que nous respections des règles par rapport à nos affaires? Regardez ce que Allah nous dit. Ô Shu'aib, sont tes prières qui t'ordonnent de nous pousser à renier le culte de nos ancêtres ou de ne plus disposer de nos richesses comme nous l'entendons? Ils croyaient que la prière n'a rien à voir avec la gestion économique. Mais si, la prière, l'aspect spirituel dans notre vie musulmane, ça influence notre vie économique, notre morale. Le musulman, puisqu'il prie, ben il respecte les règles qu'Allah lui a demandé de respecter, même quand il fait du commerce, même quand il gagne de l'argent. Il le gagne halal. Pourquoi ? Parce qu'il prie. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit aux musulmans de tomber dans la turpitude et dans tout ce qui est blâmable. Et il faut comprendre que parmi les règles les plus importantes pour nous musulmans, c'est que l'homme dans cette vie, il peut disposer de l'argent, mais qu'il sache qu'il n'est uniquement un gestionnaire, dépositaire, et non pas le vrai propriétaire. Qui est le vrai propriétaire ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le vrai propriétaire ? Et Allah nous le dit clairement dans le Coran. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Hein ? C'est pas mimma tamlikun, mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Ma'naha al-mal rabbi a'tahna wa nahnu mustakhlafina fi hadha al-mal. Al-mal rah mouch malik ya Abdallah. Al-mal rah mal rabbi ou l'insan lazim يعمل ما أمره به الله في المال. إذا قالك ربي دير هاك دير هاك, إذا قالك دير هاك دير هاك, لأنه هو المالك الحقيقي. Donc Allah c'est le vrai propriétaire, et Allah nous a octroyé cet argent, ces biens matériels, et il nous a demandé de faire des choses. Comme il nous a demandé de disposer de cet argent, vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent à condition donner la zakat. N'oubliez pas le pauvre, n'oubliez pas l'orphelin. Quand il se passe quelque chose dans le monde musulman qui vous êtes capable de donner, donnez. Assurez une vie normale pour vos familles. Donc Allah nous a donné l'argent, mais il nous a dit voilà ce qu'il faut faire. Si tu respectes ce que Allah t'a demandé, ben c'est très bien. Tu es là pour exécuter ses ordres, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit, croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. En réalité, nous ne sommes pas les vrais propriétaires. C'est Allah qui est le vrai propriétaire. C'est une délégation de gestion. C'est comme quelqu'un te donne une terre et il te dit, voilà, cette terre elle est à ta disposition. Fais ce que tu veux. Mais attention, ne touche pas à cette parcelle-là. Elle est pour les pauvres. Cultive-la, mais la récolte de cette parcelle, elle est pour les pauvres. D'accord ? Cet arbre-là, tu ne le touches pas. Il est à moi, par exemple. Et il te donne des ordres. Mais il te dit, le reste, tu fais ce que tu veux. C'est en quelque sorte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, c'est en quelque sorte comme ça. Allah nous a dit, prenez la richesse, elle est à vous, mais respectez mes ordres. Si on respecte les ordres d'Allah, on est gagnant. Si on transgresse et on ne respecte pas les ordres d'Allah, voilà, on est perdant. Donc, si vous voyez que le sujet de l'argent, le sujet du matériel, la richesse matérielle, occupe une grande place dans le Coran. Allah nous parle énormément de riba, de zakat, de sadaqa, al-mawarith. Beaucoup de sujets qui concernent la finance, l'économie, ben l'islam et le Coran les détaillent. C'est étonnant comment Allah détaille les règles de l'héritage dans le Coran. Allah ne nous parle pas beaucoup de la prière dans le Coran. Il nous dit de prier, mais il ne détaille pas. Mais quand on voit comment Allah détaille combien une fille par rapport à un garçon, quand on est plusieurs filles, quand la femme, Tout est détaillé, subhanallah. Tu te dis pourquoi? Pourquoi Allah détaille autant les règles de l'héritage? Parce que l'argent, c'est une porte ouverte devant Shaitan. Shaitan rentre souvent par la porte de l'argent pour diviser. D'accord? Vous allez trouver une femme et son mari divorcés. Pourquoi? L'argent. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas, c'est l'argent qui fait divorcer les gens. Vous allez trouver un frère avec son frère, ennemi, à cause de l'argent. Une personne avec son cousin, ennemi, à cause de l'argent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé cette question d'argent ouverte. Il a tout précisé subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est une question importante. Il suffit de savoir que le plus grand verset dans le Coran, le plus long verset, le verset 282 de Sourate Al-Baqarah, il parle de quoi? De Ad-Dayn. Ayatul Dayn. Le plus long verset du Coran parle de la dette. Comment régler une dette? Comment écrire une dette? La dette. Vous imaginez? Pourquoi la dette? Pourquoi le verset le plus long du Coran parle de la dette? Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent des gens comme ça, en disposer et oublier de le rendre. C'est pour ça qu'Allah nous demande de l'écrire, de toutes des règles à respecter. D'accord? Et c'est le plus long verset pour nous montrer l'importance de l'argent, l'importance de cette relation financière, et que Shaitan est capable de détruire une fraternité. Hein, c'est mon frère, mais après quand l'argent rentre entre nous, et quand on oublie de respecter ce que Allah nous a demandé, ben Shaitan est capable de détruire cette fraternité. Très simple pour lui. Du moment où on oublie, du moment où on n'écrit pas, ben Shaitan c'est très simple pour lui. Et ce n'est pas une question de confiance. Je peux avoir confiance totale en mon frère. Mais Allah me demande de l'écrire, de le mentionner et de marquer une date de remboursement. Oui, je l'écris, je mentionne tout et je marque une date de remboursement. Même si ici il s'agit de 100 euros. Oui, 100 euros peut détruire la fraternité entre les musulmans. Pour voir quelle est la position de l'islam par rapport à l'argent et à la richesse matérielle, je vais faire une petite comparaison. L'argent chez les juifs, l'argent chez les chrétiens et l'argent chez les musulmans. Juste pour voir comment la vision musulmane et la vision du juste milieu, la vision naturelle qu'Allah donne. Le prophète Joseph, comme vous le savez, était un grand financier. Il a sauvé l'Égypte. Allah nous raconte son histoire. Comment il a fait? C'était un grand financier. C'était un ministre de finances qui a sauvé l'Égypte et même le Moyen-Orient d'une famine assurée. Allah l'a amené au bon moment et il lui a donné la sagesse. C'était quelqu'un de très sage, très. Et quand Joseph alayhi salam a amené son peuple, son père et ses frères, il les a installés en Égypte. Ils avaient un statut. Ils sont devenus des gens, des grands commerçants. Petit à petit, ils ont fait leur place en Égypte. Ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à la sagesse de Joseph et grâce à sa transmission. Il leur a donné cet enseignement. Comment faire, comment être. Joseph, c'était quelqu'un de, subhanallah, c'était un prophète, quelqu'un de juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui, Ibn al-Karim. Pourquoi? Parce que c'était un prophète. Fils d'un prophète, Youssef alayhi salam. Et quand les juifs sont venus s'installer en Égypte, ils ont pris une place importante. Mais, comme vous le savez, Pharaon est venu, ils les ont un peu dominés, mais malgré tout, il y avait quelques juifs qui étaient très riches. Parmi eux, on a un exemple dans le Coran, c'est Qaroun. Inna Qaroun kana min qawmi Moussa. C'était un juif de la tribu de Qawmi Moussa. Donc c'était un juif. Qaroun, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, énormément d'argent. Allah nous le dit dans le Coran. Et donc, quand ils se sont installés, et quand Allah a ordonné à Moïse de sortir son peuple de l'Égypte, ce peuple-là a pris avec lui beaucoup d'argent. D'ailleurs, regardez juste le livre de l'Exode, qu'est-ce qu'il dit de cette sortie des juifs, des fils d'Israël, de l'Égypte. Je ne suis pas en train de dire ça c'est la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Ça c'est ce que disent les chrétiens dans leur Torah d'aujourd'hui. Allahu a'lam si c'est la vérité ou pas. Quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez l'Égypte. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Il dit, les justes attachent plus d'importance à leur bien qu'à leur corps, pour vous montrer la valeur de l'argent, le matériel. Le matériel, c'était quelque chose qui est devenu un dieu à la place de Dieu. D'ailleurs, quand ils sont arrivés en terre de Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué un veau. De quoi ils l'ont fabriqué? Un veau d'or pour l'adorer. Donc, il y a cette notion de l'or. L'or contient quelque chose de particulier, un étincelle qui... Il y a un attachement au matériel qui était au-delà du pensable. Et justement, depuis, le rapport des fils d'Israël avec l'argent est particulier. Même dans la religion elle-même, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de financiers juifs, beaucoup de ils ont inventé le chèque, ils ont inventé... Il y a beaucoup de choses, les travails des banques, tout ça, on trouve que il y a les financiers, les économistes sont dans leur majorité juifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement, c'est en raison de leur iniquité et du grand nombre de gens qu'ils ont détournés de la voie de Dieu que nous avons interdit aux juifs l'usage d'excellente nourriture autrefois autorisée. C'est aussi à cause de la pratique de l'usure, riba, de l'usure, bien qu'elle leur ait été interdite, comme pour les musulmans, comme pour les chrétiens. Riba, c'est interdit dans toutes les religions, d'accord? Mais ils ont traduit ça à leur manière et dire, oui, c'est interdit entre nous, mais c'est pas interdit avec les autres. Et c'est pour ça qu'entre juifs, il n'y a pas d'usure, mais avec les autres, c'est autorisé. Donc Allah nous dit, et de leur habitude de s'accaparer injustement des biens d'autrui que nous avons préparés pour ceux d'entre eux qui sont négateurs de terribles tourments. Donc Allah nous dit encore, l'envoi un grand nombre d'entre eux sont pressés de commettre des péchés et des agressions, de se repaître des gains illicites. De prendre et s'accaparer des gains sans regarder si c'est autorisé ou pas. Du moment où on a la possibilité d'avoir l'argent, de le gagner, ben c'est autorisé. L'islam, c'est pas comme ça. D'accord, on va voir tout à l'heure. On va voir la vision des chrétiens. Allah a envoyé Jésus justement pour contrer ce mouvement de matérialisme ambiant. Il y avait tellement de matérialisme. Oh, on a même adoré le veau d'or, le matériel. Allah a envoyé Jésus pour enlever ça, pour rendre la religion juive plus spirituelle, donner encore plus de spiritualité et se détacher un peu de matériel. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand les chrétiens ont pris certaines mesures de monachisme, Allah leur a dit... Vous avez pris cette voie de monachisme. Allah ne vous a pas ordonné de prendre cette voie, mais vous avez choisi de la prendre. Donc, pour comprendre la vision chrétienne sur l'argent, il faut savoir que les chrétiens, pour eux, c'est recommandé d'une manière générale de faire vœu de pauvreté. De pauvreté et de chasteté. D'accord ? C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas. Et c'est pour ça que, pour eux, être pauvre, c'est meilleur, c'est mieux que d'être riche. D'accord ? Être riche, on va le voir. Par exemple, dans l'évangile Luc 18, le verset 22 à 25. Écoutez bien. Je ne dis pas que ça c'est la parole de Dieu, hein, Allahu alam. Mais ce que dit l'évangile. À ces mots, Jésus dit, il te reste encore une chose à faire. C'est un riche qui vient vers Jésus pour le suivre, suivre sa religion. Mais c'était un riche. Regarde ce que Jésus lui dit, hein, d'après l'évangile. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Donc, il lui dit, vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Donc là, tu n'as le droit de ne rien avoir. Puis, viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé. C'était un riche. Comment je dois tout vendre pour venir? Car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà un peu la vision chrétienne de la richesse. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas, si on veut s'attacher à la religion chrétienne, être riche. Et Allah nous le dit aussi dans le Coran. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية مش ربي اللي فرضها عليهم، إنما ابتدعوها، هم اللي زادوها في الدين تاعهم. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما داروش هذاك الشيء تاع الرهبانية، حابين فقط داروه حبا في رضاء الله، الأولين منهم. إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Donc Allah nous dit, nous avons envoyé ensuite sur leurs traces nos autres prophètes que nous avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'évangile. Et nous avons fait naître dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi la bonté et la compassion. Et c'est vrai, Allah nous le dit. Quant au monachisme, le monachisme, le fait de s'isoler, le fait de faire vœu de pauvreté, qu'ils ont instauré eux-mêmes, nous ne leur avons point imposé. Allah n'a pas imposé ce monachisme. Ils y étaient seulement poussés par leur propre désir d'être agréables à Dieu, sans pour autant l'observer comme ils l'auraient dû le faire. Si tu prends un chemin, si tu prends un engagement, Allah ne t'a même pas imposé ça. Mais si tu te l'imposes à toi-même, respecte au moins tes engagements. Mais ils n'ont pas pu respecter leurs engagements. Pourquoi ? Parce que les engagements qu'ils ont pris sont contre nature. Ils contredisent la nature humaine. Un homme a besoin de se marier. Allah a créé en lui, une femme a besoin de se marier. Comment on peut dire à des gens de ne pas se marier ? D'accord ? Donc ça va à l'encontre de leur humanité. Un homme aime l'argent. C'est naturel. « وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ » C'est Allah qui nous le dit, que l'argent, l'amour de l'argent, il est naturel. Maintenant, il y a amour et amour, il faut le canaliser cet amour-là. D'accord ? Quand on dit non, l'argent c'est sale, ben on est en train de dire, en quelque sorte, contredire la nature humaine. Et regardez, qu'est-ce que Allah nous dit, subhanallah, c'est très très révélateur. Donc, ils l'ont fait juste pour être agréable à Dieu, sans pour autant l'observer comme ils auraient dû le faire. Nous avons donné leur récompense à ceux qui avaient cru parmi eux, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Hein ? Le fait de contredire la nature, ça pousse à la perversité. Ça pousse à la perversité. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Donc, on va parler de la vision musulmane sur l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde-là par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Il a fait que dans ce monde, il y a des riches et des pauvres. Des gens en bonne santé, des gens malades. D'accord ? Des petits et des grands. Des personnes âgées et des jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, a voulu de cette diversité. Pourquoi ? Parce que, imaginez que nous étions tous riches. Est-ce qu'on aura besoin les uns des autres ? Non ? Ah, on est tous riches, ah, j'ai pas besoin. Ah, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Je suis riche comme toi, tu es riche. On n'a pas besoin. Mais Allah a fait que on a parmi nous des riches qui ont besoin de travail pour faire travailler les gens. Les pauvres viennent travailler. Hein, et on comme ça. Allah a fait que les gens aient besoin les uns des autres à travers wa alaykum salam wa rahmatullah, la richesse. Donc c'est la sagesse de Dieu d'avoir des gens riches et des gens pauvre. La richesse pour nous musulmans peut avoir quatre statuts. Elle peut être un châtiment de Dieu, une punition. Elle peut être une tentation, une fitna, un égarement, un moyen d'égarement. La richesse peut être une épreuve ou un test. Et la richesse peut être un bienfait de Dieu. Voilà les quatre statuts de la richesse. Un châtiment, une tentation, une épreuve ou un bienfait de Dieu. Je vais essayer de voir avec vous, dans le Coran, quand est-ce qu'Allah nous parle de la richesse comme châtiment ? Si, la richesse peut être un châtiment. Imaginez celui qui va passer sa vie, toute sa vie, à ramasser de l'argent, à travailler je ne sais pas combien d'heures, d'accord ? Pour pouvoir avoir encore plus d'argent. Quand il va dormir, il pense à l'argent. si son argent va diminuer, comment il va encore gagner plus? Quand il va se lever, c'est l'argent. Quand il... Mais c'est un châtiment. Cette personne ne vit pas en réalité. Elle est toujours dans l'argent. Il est triste quand il perd de l'argent. Et il est inquiet. Il a de l'argent, mais il est inquiet de le perdre. Donc il vit une vie pénible. Et on dit, c'est l'adab. Regardez ce que Allah nous dit. Que leur richesse et leur nombre et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent guère. Dieu ne les leur accorde que pour les faire souffrir ici-bas. La souffrance là, l'inquiétude toujours. Oui, vous avez des gens qui vivent pas, msakin. Ils sont riches, mais ils sont inquiets, ils sont tout le temps dans l'inquiétude. Pour les faire souffrir ici-bas et les voir rendre péniblement l'âme en négateur. Et certains, l'argent va les voiler leur raison. Ils sont tellement dans l'argent, occupés de la ramasser et de faire fonctionner l'argent, qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur vie. Ils ne vivent pas, ils sont comme ça. Juste l'argent comme objectif. Et là, ils ne vivent pas, ils meurent en négateurs, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah nous dit encore, les négateurs dépensent leurs biens pour détourner les gens de la voie du Seigneur, et quand ils les auront gaspillés, ils en éprouveront du regret. C'est toujours le regret, d'accord? Puis, après avoir connu la défaite, c'est vers Jahannam qu'ils seront conduits. L'argent peut être un châtiment, mais il peut être une fitna. Allah nous dit clairement, sachez que vos richesses et vos enfants sont qu'une fitna pour vous. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Donc c'est une fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était sur le minbar, en train de faire sa khutba, et son petit-fils, Al-Hassan, Aoul Hussein, rentre à la mosquée. Et il commence à marcher entre les rangs, tomber parfois. Et le prophète, quand il l'a vu, il a eu la faiblesse d'un grand-père qu'il aime tellement son petit-fils. Il était en train de faire la khutba. Et il descend, il va entre les rangs, il le prend dans ses bras, et il remonte sur le minbar. Et qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons ? Innama amwalukum wa awladukum fitna. Il a dit, j'ai vu mon petit-fils marcher, tomber, ça m'a fait mal au cœur, donc je suis descendu pour le prendre. Il cite ce verset-là, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer comment, c'est le fitna, il ne faut pas la comprendre, ce n'est pas une chose détestable. On aime nos enfants, on aime l'argent, c'est un peu naturel, d'accord ? Ce n'est pas une chose détestable, mais il faut faire attention. La fitna, il faut faire attention à ne pas lui donner une place dans le cœur plus importante que la place nécessaire. Sinon, ça va nous repousser, ça va nous éloigner d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un moyen de tentation et un frein, peut-être un frein, parce que le cœur de l'être humain, il est ce qu'il est. Il ne peut pas contenir beaucoup de choses. Si on a trop d'amour pour l'argent, ben on n'aura pas beaucoup d'amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de la richesse et des enfants peut venir concurrencer l'amour d'Allah et l'effort, l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'effort qu'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous-mêmes d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur notre spiritualité. Beaucoup parmi nous font attention à la spiritualité, d'accord ? Tu trouves certains qui réussissent très bien, ils font bien leur prière, alhamdoulilah. Ils jeûnent, ils font beaucoup de bonnes choses, d'accord ? Mais ils oublient de travailler aussi dans leur cœur l'amour de l'argent. Hein ? Et ils sont des frères parfaits. Tu dis, Mashallah, c'est un frère excellent. Quand tu le testes sur beaucoup de choses, tu le trouves parfait, Mashallah. Mais quand tu le testes sur l'argent, c'est tout une autre chose. L'argent révèle la vraie personnalité. Hein ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas assez. On croit qu'on est... Ah, alhamdoulilah, lui, il vient à la mosquée. Il vient à la mosquée, c'est très bien. Il vient au Fajr, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas garanti qu'il soit bon avec l'argent. Peut-être avec un peu d'argent, un peu d'or, tu peux le... Hein, ou quand il s'agit de problèmes financiers, Ah, peut-être tu ne le trouves pas. Peut-être il aura peut-être un autre comportement. Beaucoup de frères sont très bien, mais ils ne font aucun effort de se détacher de l'argent. Ils aiment l'argent. Et on a, hein, c'est un peu humain d'aimer l'argent. Mais il faut canaliser cet amour. Il ne faut pas laisser l'argent nous posséder. Il y en a qui adorent l'argent et qui n'est pas capable de donner ou de céder aux gens. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ. ما قالش تحبوها، هذا الشيء كامل نحبوه، أي إنسان يحب هذا الشيء اللي قاله ربي سبحانه وتعالى، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة، أي إنسان يحبها ما كانش مشكل. ولكن ربي قال أحب إليكم، تحبوها أكثر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيل الله، هنا وين كاين المشكل. Donc Allah nous dit, dis si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez le déclin, les demeures, la belle maison où vous vous prélassez, vous sont plus chers. Allah n'a pas dit vous sont chers, parce que c'est normal que ça soit cher pour nous d'aimer nos parents, d'aimer notre famille plutôt, de nos enfants, d'aimer sa femme, d'aimer la richesse de ce bas monde, d'aimer chez soi. Tout ça c'est normal, c'est normal. Mais c'est pas le fait de les aimer, mais le fait de les aimer plus que quoi? Que Allah, son prophète, et l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, plus cher que Dieu, son prophète, et la lutte pour sa cause. Alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur, car Dieu ne guide pas les gens pervers. Voilà, donc la tentation, elle est là. Maintenant, l'argent peut être une épreuve. D'ailleurs, la vie, c'est une épreuve. Il ne faut pas considérer uniquement la richesse comme épreuve, mais la pauvreté, c'est une épreuve, et la richesse, c'est une épreuve. Or, le Coran nous dit « فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ » Lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'homme, il l'honore, il lui donne de l'argent, il le comble de bienfaits, celui-ci dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Les gens croient que le fait d'être riche, c'est un signe d'amour de Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allah peut donner la richesse à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. La richesse de ce bas monde n'a pas de valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si la richesse était la chose la plus importante et que c'est la richesse qui était un signe d'amour de Dieu, qui serait les plus riches? Ben le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait l'homme le plus riche, parce que c'est lui qui était l'homme qu'Allah a choisi pour guider l'humanité. Et les prophètes, certes il y avait des prophètes riches, mais beaucoup de prophètes étaient très pauvres. La richesse c'est pas un signe. C'est pas parce que tu es riche, tu dis ah alhamdoulillah, ana rabbi hibni, ah mon Seigneur m'aime parce que je suis riche. Ah non, c'est pas comme ça. Et la pauvreté c'est pas un signe qu'Allah te déteste. Non, il y a des gens, des pieux, et qui étaient pauvres. Donc il faut pas dire quand... C'est pour ça que l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur m'a honoré. Rabbi akraman. Il dit, mais lorsque Allah l'éprouve, en lui mesurant ses faveurs, l'homme s'écrie, mon Seigneur m'a humilié. Ah non, il ne faut pas voir ça comme ça. Allah ne t'a pas humilié parce qu'il ne t'a pas donné d'argent. Certes, il faut chercher l'argent, il faut aller travailler. Mais ce n'est pas parce que Allah ne t'a pas donné d'argent qu'il t'a humilié. Pas du tout. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Eh bien non, qu'Allah nous dit, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux avec l'orphelin, c'est plutôt vous qui n'encouragez pas à nourrir l'homme dans le besoin, c'est plutôt vous qui spoliez les héritiers de leur bien et qui vouez à la richesse un amour sans fin. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent, la richesse, حُبًّا جَمًّا, un amour sans limite. Voilà le problème. Voilà. L'argent, on peut l'aimer, mais canaliser l'amour. L'argent, on l'a dans la main, on le manipule et on ne le laisse pas nous manipuler. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous manipulés par l'argent. C'est dunya qui nous dirige au lieu de la diriger. Voilà ce que Allah nous dit par rapport à cette épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Quatre choses que chaque être humain va être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, le jour du jugement dernier. Donc, c'est sa vie, comment il l'a passé, ses connaissances, comment il les a utilisées, son savoir, ses biens, l'argent, les biens d'une manière générale. Il est bien, il ne va pas te questionner une fois. Non, non, deux fois. Il va te questionner comment il l'a acquis, comment il l'a gagné et comment il l'a distribué. Deux choses. Donc c'est encore plus. Donc c'est une épreuve. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. Quand on est riche, il faut bien faire les choses pour que le questionnement soit léger. Alhamdoulilah. L'argent est un bienfait. Donc on a dit, l'argent peut être un châtiment. L'argent peut être une tentation et un moyen d'égarement. L'argent peut être une épreuve, l'argent peut être un bienfait de Dieu. Généralement, l'argent, quand Allah le donne à quelqu'un qui est pieux, c'est un bienfait. Si vous voyez un pieux musulman, alhamdoulilah, et qui a de l'argent, il faut dire, ça c'est un bienfait qu'Allah lui a donné. Parce que généralement, les musulmans vont respecter ce que Allah leur demande. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Ni'ma al-mal al-salih lil-abdi » صالح نعم المال الصالح للعبد الصالح إنسان صالح وربي يعطي له مال صالح ما هذه نعمة علاش لأنه رايح يعمل به الخير. L'argent est un bienfait de Dieu qui permet de vivre dignement en garantissant les besoins élémentaires. Sachez que l'islam est venu pour garantir les besoins élémentaires pour tous les êtres humains. C'est pas uniquement pour les musulmans. Selon l'islam, quels sont les besoins élémentaires d'un être humain? C'est de manger. Manger correctement et convenablement. Une bonne quantité. L'islam garantit cela à tous les humains. Ce n'est pas normal aujourd'hui, dans un pays comme la France, ou comme en Europe, de trouver des gens qui vivent très riches, qui mangent, qui jettent, et des gens qui sont obligés de faire les poubelles pour manger. D'accord ? Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam ne veut pas de ça. L'islam veut garantir un minimum de nourriture pour toute l'humanité. L'islam garantit une eau pure et purifiante pour permettre aux gens de se laver et de boire. L'islam garantit des habits pour chaque être humain. Des habits pour chaque saison. Des habits qui s'adaptent, si je vis dans un endroit chaud, des habits qui s'adaptent, qui me permettent de couvrir mon intimité et de s'habiller correctement. Ça, c'est un besoin élémentaire pour chaque être humain. Et l'islam le garantit. Je suis en train de vous citer ce que les savants disent sur les besoins élémentaires que chaque être humain, je ne dis pas chaque musulman, chaque être humain, si on a des non-musulmans qui vivent dans un pays musulman, normalement on doit leur garantir cela. C'est obligatoire. Une résidence convenable qui permet de se séparer les lits des parents, des enfants, et qui sépare les lits des filles et des garçons. Une résidence qui te permet de ça. Et certains savants disent être propriétaire de sa résidence. Les moyens de se soigner. Les moyens d'accéder à l'éducation et au savoir. Ça, c'est un besoin élémentaire, basique, que chaque être humain doit avoir, y avoir accès. Des moyens pour pouvoir se marier aussi. Se marier, c'est naturel. Et l'islam garantit les moyens pour chaque être humain de se marier. Et des moyens pour exercer ses obligations religieuses, des moyens pour faire le pèlerinage, des moyens pour d'autres obligations religieuses comme la kafara et d'autres besoins. Voilà, l'islam garantit ces besoins qui sont les besoins élémentaires pour chaque être humain. Allah, quand il nous parle de l'mal, il parle de l'khayr. « Wa innahu li hubbil khayri la shadid » وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Le khayr, c'est quoi? Ici, dans ce verset-là. Vas-y, allez-y réviser n'importe quel tafsir, ils vont vous dire, le khayr, c'est le mal. Et Allah l'a nommé pour le khayr. Hein? Donc, c'est le bien. Allah parle de l'argent, il parle de bien. Oui, le khayr. L'argent peut être un bien. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit, vous aimez le bien, beaucoup. Al-khayr. Donc c'est un signe que le mal, c'est pas toujours sale, c'est pas toujours char. Le mal peut être khayr pour certains. Donc l'islam considère la richesse matérielle comme un bienfait qui nécessite la gratitude et la reconnaissance. Quand Allah te donne, il faut que tu sois reconnaissant envers lui. Hein? Allah yuhibbu al-'abd ash-shakur. La gratitude, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ni'ma al-mal al-salih lil-'abd al-salih » Quel bienfait, le bien utile pour l'homme pieux. Allah nous dit « Qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs ?» Répond « Ils sont destinés en cette vie aux croyants. Hein? » Les biens qu'Allah a donné à toute l'humanité, ben ils sont distés. Le croyant peut en profiter. Il doit tout faire pour en profiter. C'est pour tout le monde. Ben si je peux travailler et gagner bien ma vie, ben il faut que je le fasse. Qui a déclaré illicite? Qui? Personne ne peut le déclarer illicite qu'Allah. Quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a déclaré illicite. Donc, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدنيا رهم شركاء الكفار والمسلمين وفي الآخرة خالصة معناها غير المسلمين غير أهل الجنة. Donc, dans ce bas monde, c'est pour tout le monde. Celui qui travaille, celui qui sait faire, ben il gagne sa vie. Hein, qu'il soit musulman ou pas musulman. Hein, tu travailles, généralement, quand tu travailles bien et quand tu diriges bien, ben, tu gagnes bien ta vie. Hein, Allah n'a pas réservé le bien dans ce bas monde aux musulmans. Mais il l'a réservé dans l'au-delà. Parce que ça serait exclusivement pour les croyants dans l'au-delà. Et la pauvreté n'est pas valorisée en islam. L'islam ne nous demande jamais de faire vœu de pauvreté, d'être pauvre, d'aimer la pauvreté et d'inciter les gens à la pauvreté. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la pauvreté extrême mène à la mécréance. Quand on est très pauvre, l'idéal pour un musulman, c'est de vivre le kafaf. Le kafaf, c'est quoi? Le kafaf, c'est d'avoir les moyens pour vivre dignement. Comme je viens de citer les besoins élémentaires, de les avoir, de ne pas devoir trop pour être un peu occupé de cela et de ne pas avoir pas assez pour aussi être occupé, tracassé, inquiet pour son avenir et l'avenir de ses enfants. L'idéal, c'est de vivre le kafaf. D'accord? Mais maintenant, on peut être très riche. D'ailleurs, on l'a. Est-ce qu'on a dans les exemples des prophètes, des gens très riches? Est-ce qu'on a des prophètes très riches? Suleyman. Suleyman, c'était un roi qui était très très riche. Après les questions. Youssef alayhi barakallahu fik. Youssef alayhi salam était très très riche. Shu'aib, il avait des moutons, des milliers de moutons. Mais c'est pour ça qu'il avait travaillé Moïse chez lui, parce qu'il avait beaucoup de moutons. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très riche? Abu Bakr était riche. Uthman radiallahu anhu était très riche. Encore un autre. Non, Mu'ad n'était pas très riche. Un autre très très riche. Thalaba, c'était une autre. Non, une autre. Un autre. Barakallahu fiik. Le compagnon le plus riche, c'était Abdurrahman ibn Auf. Le plus riche de tous les compagnons. Quand il était venu à Médine, il n'avait rien. Rien. Mais c'était un bon commerçant. Il a commencé à faire du commerce, il est devenu l'homme le plus riche. Et c'est lui qui a donné une caravane complète pour les pauvres de Médine. L'année de la famine. Et c'est lui qui a pris en charge toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète a laissé un héritage? Est-ce qu'il a laissé de l'argent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rien, rien. Il est mort sans rien laisser. Donc, on se demande comment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort ont pu vivre. Ils n'avaient même pas le droit de se marier, ces femmes. Mais c'est Abdurrahman ibn Auf qui les a pris tout en charge. Les femmes du prophète ne manquaient de rien. Qui? Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Regardez comment l'argent peut être une bonne chose. Il a fait énormément de choses. Uthman ibn Affan a acheté le paradis deux fois radiallahu anhu. Deux fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y avait un juif qui avait un puits au centre de Médine. Et que les gens, quand ils venaient prendre de l'eau, il leur fait payer beaucoup d'argent. Et il commence petit à petit à augmenter le prix. Le prophète a dit à ses compagnons, qui achète cette puits? Et je lui ai garanti le paradis. Othman a dit, moi, j'achète. Il est parti voir le juif. Il lui a dit, tu me vends le puits? Je lui ai dit, non, c'est pas à vendre. Je ne vends pas. Il est revenu le voir. Il est revenu plusieurs fois. Il lui dit, je te vends, mais tu vas y payer cher. Il lui dit, demande, il n'y a pas de problème. Il lui dit, je te vends la moitié du puits. La moitié, c'est-à-dire, toi tu l'utilises un jour, moi un jour. À 12 000 dirhams. Extrêmement, comme quelqu'un te dit, je te vends cette bouteille d'eau à 40 euros. Hein? Donc c'est trop cher. Et Othman lui dit, j'achète, tiens, 12 000 dirhams. Pourquoi Othman? Qu'est-ce qu'il achète Othman là? Paradis, radiallahu anhu. Regardez les gens comment ils pensent. Il lui donne 12 000 dirhams. Il achète la moitié, c'est-à-dire l'exploitation de la pluie un jour sur deux. Et les musulmans ont profité de l'occasion pour aller chercher de l'eau juste le jour où il y a Othman. Bien sûr. Le juif a fini par dire à Othman, viens, je te vends l'autre moitié. Il lui a vendu tout le puits et les musulmans ont eu accès à cette eau. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait Ghazwat, laquelle l'Usra, elle s'appelait Tabouk. Ghazwat Tabouk, c'est une ghazwa extrêmement difficile et où il fallait avoir beaucoup d'argent pour aller jusqu'en Jordanie. Hein, les limites de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, Tabouk, c'est très loin. Et une armée, et le prophète n'avait pas d'argent pour préparer l'armée. Il dit, qui nous aide? Et Othman amène pour préparer des milliers de combattants. Il leur a acheté tout, les chevaux, tout. Ils sont occupés de tout, radiyallahu anhu. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Othman, rien ne te fera du mal à partir de ce jour-là. C'est-à-dire, aucun péché, en quelque sorte, tu as acheté le paradis deux fois. C'est la fois où il a acheté le puits, et la fois où il a préparé la moitié de l'armée musulmane, pratiquement, c'était Othman. Regardez comment l'argent peut être une bonne chose, et qu'il ne faut pas... Regardez comment l'argent peut être un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qu'Allah aime. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait du'a, il dit « Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wa minal faqr ». Pourquoi? On se demande pourquoi « minal kufri wa al-faqr ». Pourquoi le kufr ou le faqr? Parce que le faqr peut mener à le kufr. Les deux choses, le prophète les cite dans un même hadith. Le faqr, c'est la pauvreté, et le kufr, c'est la mécréance, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des principes de base. Je vais aller vite parce que c'est vrai que la conférence peut être... Mais là, c'est un petit rappel entre nous. Quels sont les principes de base pour l'argent? D'abord, que la richesse et l'argent et les biens peuvent être un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et nécessitent la reconnaissance. La richesse n'est pas une raison pour se rebeller contre Dieu. Ce n'est pas parce que Allah t'a donné la richesse que tu vas te dire « Ah, moi je suis intelligent ». Je sais faire, hein? Ah, grâce à mon intelligence, grâce à ma science. Qui a dit ça? Qarun, qu'est-ce qu'il a dit Qarun? Non, Qarun, qu'est-ce qu'il a dit Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ah, j'ai gagné cet argent parce que je suis savant. Je suis quelqu'un d'intelligent. Mais non, là, jamais un musulman dira ça. À chaque fois, oui, tu gagnes beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, c'est Rabbi qui m'a donné. Si Allah ne voulait pas me donner, j'aurais rien. C'est Allah qui m'a permis. Rabbi wafaqni, toujours attribue le bien à Allah et non pas à soi-même. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Je ne me rebelle pas, je ne dis pas je suis le meilleur. Jamais. Je ne considère pas l'argent comme un signe d'amour ou la pauvreté comme un signe de désamour. L'argent, c'est un... Allah te le donne, c'est pas parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. L'amertume, très bien. Barakallahu fik. Le musulman, malgré les efforts fournis, attribue la réussite à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à ses efforts et à sa science. L'autre principe, écoutez bien, l'islam garantit le droit à la propriété. L'islam garantit le droit à la propriété. Chaque être humain peut posséder. L'islam ne nous dit pas « devenez communiste hein. ». Tous les biens sont pour tout le monde. On vit hein, tous dans un monde de bisounours. Hein, tout est pareil, tout est... Non, ça n'existe pas. L'islam ne croit pas en ce principe de communisme. Et l'islam ne croit pas non plus à ce principe de capitalisme, où l'argent est roi, l'argent décide surtout. L'islam prend une voie médiane. Il garantit la propriété, un peu ça vient du capitalisme, qui garantit la propriété, mais c'est un système social à la fois qui vient du communisme. Donc l'islam, mais c'est pas parce qu'il y a le communisme, l'islam c'est la religion de Dieu. C'est Allah qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est celui qui t'a fabriqué, qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné ton mode de fonctionnement. Comment tu dois fonctionner? Comment tu dois faire avec l'argent? Et c'est ça l'idéal pour l'être humain. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a donné comment on doit fonctionner. Donc la propriété, l'homme aime la propriété. C'est en nous, c'est dans nos gènes. On aime posséder. Regardez, même un petit enfant, ça c'est à moi. Hein, il prend la chose, il dit, ah ça c'est à moi. Pourquoi l'enfant, hein, dès 6 mois, il commence, ah ça c'est à moi. Parce qu'en lui, Allah a créé l'amour de posséder. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran pour nous guider vers ce qui s'adapte à notre nature. L'homme n'est qu'un gestionnaire, comme on vient de le dire. Il doit respecter la volonté du propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour excessif de l'argent et l'avarice sont des maladies. D'accord ? Il faut s'en débarrasser. Il faut maîtriser l'amour de l'argent dans ton cœur. Hein ? On aime tous l'argent, mais il faut canaliser cet amour pour ne pas qu'elle nous induise dans l'erreur. L'argent est un moyen et non pas un objectif. Il ne faut pas que tu te dises, moi mon objectif dans la vie c'est de gagner de l'argent. Non, ce n'est pas d'être riche. Ce n'est pas comme ça qu'un musulman réfléchit. Ce n'est pas que tu te dis, tu peux être riche, il n'y a pas de problème, tu peux travailler pour être riche, mais qu'est-ce que tu dis? Quel est mon objectif dans ce bas monde? D'avoir la satisfaction d'Allah. Yarda anni Rabbi. Voilà l'objectif de chaque musulman. Après, ça peut être par l'argent, ça peut être par la prière, ça peut être par le don, ça peut être par d'autres moyens, par la science, tout ça. Mais l'objectif, dans toute chose, quand tu entreprends une entreprise, n'importe laquelle, tu dis, mon objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi, Inch'Allah. L'argent doit être un moyen et non pas un objectif. L'argent c'est comme une arme. Tu peux tuer des innocents avec, et ça devient haram, comme si tu peux sauver des innocents. Et ça devient halal, ça devient même obligatoire. L'islam combat l'injustice, combat la pauvreté et promeut la suffisance pour tous les humains. Tous les humains ont le droit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de vivre dignement, de manger à leur faim, de s'habiller, d'avoir un toit, de se soigner, de se marier. Ça, c'est un besoin minimum. Et l'islam le garantit pour tous les êtres humains. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il ne faut pas dire, ah moi je suis pauvre. Hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, lève-toi le matin, va travailler, fais du commerce, entreprends, essaye par tous les moyens, halal, de gagner ta vie. Maintenant, comment le musulman peut acquérir de l'argent? Il est bien. D'abord, les règles, c'est d'abord, la première règle, c'est de ne gagner de l'argent que d'une manière licite, halal. C'est quoi les moyens licites? Le travail. L'islam valorise le travail énormément. Il faut travailler pour la vie, pour gagner sa vie. Le commerce, l'entrepreneuriat, le service, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, tout ça l'islam appelle. La fructification de l'argent, s'associer avec les gens pour travailler, pour le don, les cadeaux, l'héritage, le testament, la dot pour une femme, c'est un moyen d'acquérir l'argent. C'est un moyen, c'est pour ça que la femme ne doit pas dire « Ah moi je veux rien ». Si, il faut demander quelque chose. Ne pas trop demander, d'accord ? Selon les moyens de ton époux, demande la dot, c'est quelque chose d'important. Et le prêt sans intérêt. Ça, les moyens qui peuvent me permettre de gagner de l'argent. Éviter tous les moyens haram. Quels sont les moyens haram? Le fait de travailler dans des produits interdits. Quand Allah interdit quelque chose, il interdit son prix. Allah interdit l'alcool? Allah nous a interdit de vendre ou acheter l'alcool. Hein? Allah interdit les jeux de hasard? Allah nous interdit de vendre ou d'acheter ou de travailler dans ce domaine-là. D'accord? Donc tout ce qui est moralement ou physiquement ne nuit pas à la santé. Le riba, c'est haram. Le musulman évite le riba, l'usure d'une manière générale, le vol, l'escroquerie, la spoliation, prendre l'argent des autres, prendre l'argent dans l'entreprise. Ah ben c'est l'entreprise, c'est public, hein, pourquoi pas, hein, mais c'est du vol. C'est du vol. Le jour du jugement dernier, ça s'appelle raloul. Le jour du jugement dernier, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tu vas prendre sur ta tête tout ce que tu as pris de ton entreprise. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi? De quel droit tu prends de l'entreprise? C'est ton argent? C'est pas ton argent. Pourquoi tu en prends? Ah, ça c'est le haram, ça. Voilà le haram. Il est simple le haram, hein? Il n'est pas très très compliqué à savoir, à connaître. Quand tu le prends d'ailleurs, tu le prends en cachette. Hein, ça le haram. الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَخَشِيْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Et tout ce qui est jeu de hasard, le tac au tac, la française des jeux, tout ça c'est haram. Le musulman ne gagne pas l'argent avec le haram. Hein, il y a certains tiercés, tout ça c'est haram. Et un certain il te dit, oh, je vais gagner, mais après je vais donner aux pauvres. Allah n'a pas besoin de toi. Tu gagnes le haram et tu donnes aux pauvres. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Rabbi. طيب وما يقبلش إلا الطيب. أنت تروح تربح المال بالحرام وتتعطي الرب يقول لك je vais gagner 1 million إن شاء الله et je vais construire une mosquée. Non, ne gagne rien بالحرام. Ne construire rien, on n'a pas besoin de ton argent. D'accord? Donc Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Quelles sont les règles pour dépenser de l'argent? Donc ne pas interdire ce qu'Allah a autorisé. Allah nous a autorisé beaucoup de bonnes choses. Il ne faut pas dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Non. L'islam est clair. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Qui a déclaré illicite la parure qu'Allah a donnée à ses serviteurs? Non, haram c'est haram, halal c'est halal. Profiter de son argent, de ses biens pour bien vivre, c'est pas haram. À condition de faire le nécessaire. De donner sa zakat. D'aider les pauvres. Donc c'est pas haram. Dépenser toujours dans le halal. Pourquoi? Tout à l'heure je vous ai dit qu'Allah nous questionnera sur deux choses concernant l'argent. Comment tu l'as acquis et comment tu l'as dépensé. C'est pas uniquement comment tu l'as acquis, mais comment tu l'as dépensé. Si tu as de l'argent halal, après tu vas le dépenser dans le haram, ben tu seras questionné. Allah te demande d'acquérir l'argent dans le halal et de le dépenser dans le halal. Dépenser avec mesure, éviter le gaspillage, éviter la prodigalité, le fait de donner trop, d'accord? Gaspillage c'est dans le haram généralement et la prodigalité c'est l'israf, c'est dans le halal. Hein, tu prépares, tu invites 3 personnes et tu fais un repas pour 10. Ça c'est du gaspillage. D'accord? Respecter les devoirs financiers. Quels sont les devoirs financiers d'un musulman? Prendre en charge les membres de sa famille. Tu n'as pas le droit en tant que musulman de laisser tomber tes enfants, de ne pas leur donner leur nourriture, leur il y en a qui ils vont jouer le haram et ils laissent leurs enfants dormir en ayant faim. Le musulman n'a pas le droit de délaisser sa famille, les membres de sa famille. Il a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est une obligation. C'est la première obligation. D'accord? L'aumône, zakat, légal. Ça, c'est la deuxième obligation. Pensez au pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une obligation. Hein, tu ne vas pas dépenser ton argent comme ça dans les choses inutiles et tu oublies qu'il faut que tu ailles faire le pèlerinage. Mets 100 euros de côté chaque mois et tu feras le pèlerinage dans 2 ans, 3 ans, inshallah. Le pèlerinage et les compensations expiatoires, le kaffara et tout ça. Dans le domaine facultatif, sadaqa, le sacrifice de l'Eid. Tout ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Prendre en charge un proche ou un voisin nécessiteux. Participer à la construction d'une mosquée comme la vôtre, inshallah, elle va être inshallah, élevée, une grande mosquée, inshallah. À Lyon qui va rayonner comme elle rayonne aujourd'hui, plus encore. Donc ça c'est aussi, c'est un domaine, il faut qu'on donne. Participer pour alléger les souffrances des musulmans, dans les catastrophes. Et c'est pour ça que vous avez, alhamdoulilah, Zakat France, les gens que vous connaissez, que nous connaissons tous, et qui travaillent dans ce domaine, et que je vous conseille, inshallah, de leur donner votre Zakat pour les aider, pour construire un vrai projet, parce que Zakat, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, un résumé rapide de ce que je voulais vous dire, inshallah. C'est l'heure de l'Isha, peut-être on n'aura pas beaucoup de temps de poser des questions, mais à mon avis, les choses sont claires, inshallah. Et la position de l'islam par rapport à l'argent, c'est la position du juste milieu, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Wa jazakum Allahu khair, subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, Allahumma ighfir dhunubana, istur uyubana, waj'alna min ibadika as-salihin. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم وفق إخواننا في هذا المسجد لبناء المسجد إن شاء الله، اللهم أصلح أحوالهم أجمعين، ووحد كلمتهم وانصرهم يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.